Vous écoutez France Culture.
Phèdre en Inde, de Jean-Christophe Bailly, lu par l'auteur. Une adaptation de Jean Torrent. En janvier 1990, Phèdre fut créé à Bhopal, en Inde, par la troupe du Rangmandal Bharat Bhavan, dans une mise en scène de Georges Lavaudan, qui apparaîtra ici sous le nom de Jo, que l'amitié lui donne. Associé dès le départ à cette expérience singulière de translation, Jean-Christophe Bailly la relate sous la forme d'un journal de bord qui est à la fois un carnet de voyage et un journal de travail. La découverte de l'Inde s'y tresse à la fabrication du spectacle, tout se passant comme si les deux enjeux se rejoignaient. Trois séjours successifs en Inde, d'août 1989 à janvier 1990, forment la matière de ce journal. Cinquième et dernier épisode, tu es là.
Bhopal, 27 décembre 1989.
À mort avec confiscation de leurs biens, la sentence a été déclarée définitive et exécutée. Tel est le communiqué par lequel les Roumains et le monde ont appris hier soir que Nicolae Ceaușescu et sa femme avaient payé 20 ans de l'une des dictatures les plus féroces qui ait jamais été. Oh, finir n'importe comment, n'importe où, temps et peine, et soi-disant, oh, tout finir. Ces phrases figurent dans Soubresaut, l'œuvre de Samuel Beckett parue au mois de novembre. Parole prémonitoire d'un homme qui n'a cessé de décrire le malaise d'être au monde. Samuel Beckett est mort à l'âge de 83 ans.
Le temps ne cesse de fraîchir. Et les gens vont le long des chemins enroulés de chiffons ou de vieux manteaux qui leur donnent l'air de réfugiés. Ceaușescu a été exécuté, Beckett est mort. Les nouvelles données par le Free Press d'Indore ne comblent que très approximativement l'envie de savoir. Hier soir, ayant trop mal à la tête pour pouvoir lire, j'ai regardé un film américain à la télévision. Il y avait une actrice avec de très belles jambes, que l'on voyait beaucoup, et je me suis rendu compte de cette différence qui est même sans doute un abîme. Ici, en Inde, on ne voit pas les jambes des femmes. Tandis que nous, nous sommes pour ainsi dire nés dans le frottement des bas l'un contre l'autre, dans le bruit soyeux et suinté de jambes croisées qui, lorsqu'on le retrouve, semble à la fois si audacieux et si originaire. 28 décembre. La machine à répétition s'emballe. Et nous voyons maintenant arriver les costumes et tout ce qu'ils vont donner ou reprendre au mouvement des corps. Nous sommes rentrés tard et gaiement dans la Toyota bondée, Kalou conduisant avec un foulard enroulé autour de la tête, comme s'il avait mal aux dents. Désormais, le pli est pris d'une routine où l'agrément l'emporte, et à l'intérieur de laquelle l'Inde, dans des interstices imprévus, nous frappe sur l'épaule et nous dit « Tu es là ». Ce « tu es là » devant une vache qui mange placidement du papier journal sur les bas-côtés de la route, devant la grande cour d'herbe jaunie, où les adolescents jouent au cricket, ou encore devant la blanchisserie Paris, simple cube de bois devant lequel sèchent des draps avant les villas de Shamla Road. À une semaine de la première, tout en vient à se serrer, avec d'inévitables retards, avec d'inévitables doutes, avec les pleurs des actrices qui subissent le choc. Mais ce qui commence comme une croisière avec un équipage qui apprend à se connaître finit toujours comme une marche forcée, dénuée de pitié. Nous avons laissé le feu prendre. Maintenant, il faut l'éteindre et parvenir à ces cendres ou à ce feu couvant encore qui est l'essence du drame racinien, peuplade d'étincelles dans un air saturé. 30 décembre. Suite des répétitions. travaille sur le récit de Théramène. Dwarka me demande de le lui lire en français. Il veut entendre la sonorité réelle de Racine, et je m'efforce de la donner autant que possible. Cela l'émeut, et moi aussi. Avant le filage de 6 heures, la colonne peinte par Jean-Pierre est installée sur le sable. Un peu penchée, elle est désormais telle que prévu, couleur de bronze oxydé de ce verre froid qui est comme une patine toujours neuve. Fragment de palais chu d'un désastre, mais non pas symbole. Comme pour honorer ce nouvel élément, nous ratissons le sable pour l'aplanir. Il en résulte aussitôt une augmentation de la sensibilité de la lumière, quelque chose de tactile qui vient se produire entre elle et le sable. À la fin du filage, tous les parcours des personnages laissent leurs empreintes à la surface du sol. Et il y a à cela quelque chose de juste, qui dépasse de loin les faits. C'est comme si s'incarnait cette impossibilité d'effacer les mots et les traces, et cette inutilité du repentir, qui constitue l'essence même de la tragédie, qui est tout entière ploiement sous l'inexorable. Une vache écornée se tenait le long du chemin, le flot de sang caillé brillant noir sous la pluie. Le soir, sur le lac, toute une bande d'oiseaux, des sortes de poules d'eau, se rassemblent et s'immobilisent, selon une forme qui ressemble à une ouïe de violon étiré. 1er janvier 1990. Devant le lac, avant le filage, pendant que les acteurs mettent leurs costumes. C'est lundi, jour de fermeture, et les cours du Barat Bhavan sont désertes. La lumière de la fin de l'après-midi est terne, légèrement sinistre, mais paisible. De la ville, les klaxons mêlés au bruit des moteurs et aux appels des muezzines forment une rumeur qui, par instant, devient clameur. Bruit ou mélopée humaine aussi naturelle désormais que le chant des oiseaux qu'elle recouvre. L'animal le plus bruyant de la terre a pourtant fait ce lac où les oiseaux se regroupent sans hâte comme de la limaille de fer sur une eau magnétique. Je regarde leurs mouvements, la lente respiration de leur théorie en surface, prise au sein de tout ce qui autour ne bouge pas, a l'air de n'avoir jamais bougé. Les rochers, la terre, l'eau elle-même et les arbres qu'aucune brise n'agite. Puis, une barque glisse sur le lac, lente, elle aussi. Cette grisaille, ces rochers, ces oiseaux, Bhopal au fond qui essaie ses reflets dans le lac, tout cela, je l'aurais vu tant de fois et toujours selon une inflexion différente. Mais parfois, comme ce soir, avec une imprégnation du souvenir futur sur le présent lui-même, en un calme naufrage léopardien. Après le filage, ce soir presque parfait à l'intérieur de ses limites, je suis allé à la gare chercher Sylvie Caillé qui vient d'elle-même nous prêter main forte pour le maquillage et je suis arrivé en avance. Foule, incroyable foule indienne, prenant d'assaut les trains avant même que les autres voyageurs ne puissent descendre, naufragés, échappant au naufrage. Bien souvent, l'alcool en moins, l'Inde me fait penser à la Russie des récits de Tchekhov que je lis le soir, un par un, systématiquement. L'hémogique, la crasse, la maladie, la corruption administrative, la hiérarchie sociale, les croyances religieuses, l'idée occidentale de progrès maladroitement importée. Et par-dessus tout, à l'intérieur du royaume millénaire écroulé, une illumination qui va de visage en visage. C'est presque trait pour trait, et compte tenu d'une couleur entièrement différente, la même agitation moléculaire et la même inertie, la même dérive et le même sauvetage in extremis. 3 janvier. Depuis hier, nous ne travaillons plus en détail sur le texte, mais face à des masses sonores. Le texte français, à quelques jours de la première, ne peut plus intervenir. Ce n'est plus Phèdre désormais, c'est le spectacle qui maintenant se déroule. Il faut corriger ici et là, encore, mais la balle est lancée, sans retour. En contrepartie, une fatigue apparaît, une fatigue physique simple, produite par tous ces jours de tension. J'écoute cette fatigue au bord du lac, approuvant chaque mètre carré de la pente rocailleuse qui y descend. Les mouvements latéraux, conférences de presse, séances de photos, prises de vue de l'équipe française venue tourner, etc., se font plus nombreux et se chevauchent, excitant l'air autour d'un but qui pour chacun devient de plus en plus privé. Une électricité parcourt les rapports les plus simples. Cette fièvre qui accompagne les derniers préparatifs d'un spectacle, je la reconnais. Mais elle se colore ici d'une mélancolie plus grande, parce que la dispersion de ceux qui l'ont fait inévitable prend ici un tour spectaculaire et violent. Dernier filage avant la première. Les maquillages de Sylvie, que le contact avec ses peaux et ses yeux différents stimule et amuse, font merveille. À quel point le théâtre tient aussi malgré tout à ses petites finitions, à quel point la méditation un peu convenue sur l'art de l'illusion est malgré tout fondée, on le vérifie avec le maquillage plus encore qu'avec les costumes. La peau, entre cuivre et or, mais peau, présence respirée et bruissante, visage ouvert au destin jeté sous les lumières ou brillant dans la pénombre. Le drame de Racine repose aussi sur le présupposé que les visages sont parlants, que Phèdre est belle et parée pour mourir, que la vie qui la quitte est la vie même à laquelle elle s'offrait violemment.
जिसके कारण सूरज की चौड़ी चितवन पर धब्बा हुजूर वे चली गई
काश कि उसके पाप की कालिख भी उसके साथ ही चली जाती
Nuit du 5 au 6 janvier. La première a eu lieu. Les cérémonies d'adieu très émouvantes sont terminées. Joe est reparti hier soir. Au théâtre, tout commence quand tout est fini. Dès qu'elle existe, la pièce est abandonnée, ou presque. Quitter Bhopal, qui n'a certes pas 3 étoiles dans les guides, n'est pas facile. Et tout me revient ici encore dans la nuit précédant le départ. Il faudrait une liste de noms ou un serment. Mais le serment fait partie du paysage. Les autres nuits sans sommeil, je sortais un instant sur la galerie pour m'assurer que j'étais bien là, que tout était en place, et la cour avec sa pelouse, ses arcades blanches, les feuilles du bananier immobile sous la lune répondaient d'elles-mêmes en silence. Moments sans rien et les plus beaux, comme ceux d'urne où entre 2 répétitions j'allais m'asseoir au bord du lac, voir où il en était avec ses oiseaux, ou, un peu plus tard, avec les premiers feux de la ville s'allumant sur l'autre rive. Dans l'insomnie, j'entends encore sans arrêt Phèdre, des échos de Phèdre dans la langue où elle est ici parlée, dans les voix qui parlent ici cette langue. Chacune de ces voix est celle d'un acteur, et chacun de ces acteurs est une vie. Le sens immédiat des paroles, qui échappe toujours, donne en retour davantage de place à cette part personnelle et solitaire qui résonne dans la voix. Tous les êtres ont une voix différente, et la forme de ces voix est leur résonance la plus ressemblante. Ce qui est caché, et parfois tout au fond, s'expose fragilement mais éperdument dans la voix. Et ce ne sont pas tant Œnone ou Phèdre ou Thésée que Saroge, Viba ou Alok que j'entends dès que je ferme les yeux. Persistance qui fait penser à celle des traversées à l'issue desquelles on ressent encore à terre les mouvements du bateau. Cette traversée des voies, ce n'est pas l'Inde. C'est le résultat le plus palpable de ce que nous sommes venus y faire. Et ici s'équilibre ce qui a trait au théâtre et ce que le théâtre fait lever dans la vie. Ici, nous avions à travailler à l'intérieur de toute une suite de différences. Celle des voies, mais aussi celle des langues, celle des noms, des signes, des phonèmes, celle de la gestuelle qui les soulève et les ponctue. Le but, c'était qu'à la fin, entre les voix sur scène et par-delà toutes les autres différences, entre 2 blocs chus de Babel, une parole par instant au moins puisse être entendue. accomplir un travail tel qu'entre deux langues tout d'abord, puis entre les voix ensuite, puis s'élever, jaillir et retomber une parole, c'est accomplir un travail politique au sens le plus propre. Donner consistance à la division, partager ce qui fait qu'avec elle un commun puisse être engendré. Le très ténu commun de cette Phèdre indienne, c'est ce qui la fait tenir, c'est ce qui en fait au sens plein une expérience.
तुमको मुझसे जितनी भी नफरत है खुद मुझे अपने आप से उतनी है बदला लूंगा जैसे भी चाहो समझ तो मैंने ये पाप किया जो तुमसे प्यार किया तो तुम मेरी बहादुर बारिश तो थी उसके और मैं ऐसी राक्षसी हूँ जो पति के बेटे के प्यार में पागल मुझको तुम नष्ट करो संसार को मुक्त करो इस खाली पापन से थी उसकी बेवाने हिप्पोलिटस से प्यार किया फिर उसका हासिल है इस पर वार करो वार करो ओ, तुम शायद इस को काबिल न मानो तुम अपने हाथों को क्यों गंदा करो आखिर अल्लाह मुझे तो ये तलवार था कि मैं खुद करूं जो मुझे करना था ये क्या महारानी वही तरह आता है दुश्मन की निगाह न पड़े लौट चले जल्दी वरना बहुत बदनामी होगी आइए क्या करें
6 janvier, dernière promenade dans Bhopal, en partant du vieux marché, derrière un Media Road, où des buffles piétinent dans un mélange de boue et de feuilles de salade. Le soleil très vif hausse le ton des couleurs, et le bazar par les rues qui remontent vers Jama Masjid me semble plus gai et plus vivant que de coutume. Je suis ému, tout simplement parce que je pars sans savoir si je reviendrai jamais, quoiqu'une dette soit contractée ici pour moi envers cette ville rétive et sans doute malade, mais qui aura pourtant été notre porte de l'Inde. Porte peu ornée, entr'ouverte puis grande ouverte à la fin, et à travers laquelle la fortune, comme on disait autrefois, a voulu que nous passions, pour déboucher parfois en pleine surprise. Agra, 7 janvier. Le Taj Mahal. On cherche à l'éviter, à en retarder la découverte. Il est inévitable. Il capte l'espace qui vient à lui. Mausolée d'un prince amoureux, montgolfière de marbre dressée pour l'élu, il se gonfle au bout d'une perspective encadrée de jets d'eau, et s'il ne s'envole pas, il flotte un peu, en tremblant dans la lumière, bloc lisse cerné par de la poudre. Plus on l'approche, et plus il est irréel. Les 4 minarets qui l'encadrent et le gardent ont l'air de phares, mais avec leurs joints trop voyants ne sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Derrière le mausolée lui-même, une terrasse à peine fermée par une balustrade basse, en jalis, surplombe la Yamuna. Le fleuve est presque à sec. Sur des bancs de sable poussent des sortes de roseaux cultivés en bandes parallèles. Sur l'autre rive, dans des friches, là même où aurait dû s'élever le mausolée symétrique, mais de marbre noir, que Shah Jahan, roi du monde, destinait à lui-même, des enfants jouent au cricket en criant. Les dimensions du monument, considérables, et la taille des balustres, très petite, donnent aux visiteurs une échelle hésitante. Géants devant le fleuve, ils deviennent nains sous les parois de marbre. Petite rue de faubourg, puis rickshaw jusqu'au Red Fort, placé sur une éminence dominant la ville, au creux d'une courbe de la Yamuna qui le dispose en balcon orienté sur le Taj. Il flotte ici quelque chose de l'air qu'on respire à Mantoue. Peut-être à cause de la rivière qui n'est pas plus limpide que ne l'est là-bas le lac. Peut-être à cause de l'immensité à la fin épuisante du palais fortifié. Tandis que le Taj Mahal domine la Yamuna de plein pied, le fort qui la domine de plus haut en est séparé par des douves asséchées ou à demi remplies d'eau croupie, puis par un boulevard où des camions foncent bruyamment et rappellent à qui l'aurait oublié la réalité de l'Inde présente, soit cet étonnant composé de furia et de calme qui la soulève et l'anéantit. Beignet en train de frire devant un tas de pneus. Vache qui somnole dans le tumulte, affalée sur le terre-plein central d'une route à 2 voies. Pieds nus et klaxons, bracelets et saris. Envol des couleurs des femmes et incroyable grisaille des vêtements des hommes, triste chemisette et triste pantalon, gens qui poussent et gens qui stagnent, charges inédites et mains vides, regards béants, pieds qui traînent, scooters et vélos qui s'infiltrent toujours, petits fanions, guirlandes de fleurs séchées suspendues à des cabanes, feux à même le sol, tenanciers accroupis, singes, corbeaux, porcs qui ramassent et trient la fange. Tout ce que l'on se surprend à aimer et qui, selon les jours, ressemble à un désastre ou, au contraire, à une effusion lyrique de la vie. Jaipur, 9 janvier. Promenade aux allures de Passejata dans le bazar. On passe comme on peut entre les boutiques et les étals répandus à même le sol. On traverse comme on peut la foule des vélos fonçant sur Chandrapol. On s'enfonce dans des rues latérales plus calmes et dans des ruelles. Dans l'une d'entre elles, le cliché oriental des tas de poudre des marchands d'épices, toujours si plaisant à voir, sollicitant l'œil plus que le palais gorgé après un mois de leur saveur. Très belle cour d'une maison où, au dernier étage, des adolescents reproduisent des miniatures au carreau avec des airs d'aveugles. Gerbes de crachats de bétel dans les recoins des escaliers, cerf-volant dans le ciel au-dessus du carré de la cour, galeries ouvrant sur des appartements au plafond bas d'où l'on pourrait croire que de la croix vient de sortir, femmes de Jaipur, comme celles d'Alger dans le temps distendu. Delhi, 16 janvier. Image de demi-sommeil persistante, rêve de l'Inde fait en Inde. Une route qui descend et qui tourne dans un sous-bois fait d'arbres très hauts, dominant une sorte de prairie jaune. La courbe est lente et belle, magique. Un cèdre démesuré, poudreux, se détache des autres arbres. Des gens vont et viennent sur cette route, dans un calme extraordinaire, comme des somnambules. Voilà, je rentre ce soir à Paris, fin de l'expérience. L'Inde romantique du grand cèdre imaginé n'existe pas, même si les gravures des voyageurs d'autrefois s'en approchent. Autrefois. Un tigre attaque une vache au pied d'une forteresse en ruine, des hommes portent des épées. À la puissance envoûtée des empires a succédé une immensité brinque-ballante qui charrie comme un fleuve en crue des dépôts et des restes d'époques enfouies. La misère et les camions, une agitation fébrile et anxieuse, tout pourrait facilement virer au cauchemar mais s'en détourne, comme si dans la négligence même, une fierté et une force se tenaient en réserve. Les fameuses valeurs occidentales, les avenues trop grandes de Delhi, les manoirs trop grands de Bombay ne tiennent pas la distance. Et quelque chose les a mises de côté comme de mauvais habits, ni soie, ni haillons. Que faire ? Revenir sans doute, puisqu'un devoir d'humilité plie ici le voyageur. À la fin, on aime le sol et on comprend qu'on s'y tienne tout le jour accroupi, à faire du thé pour quelques sous, à cirer des chaussures. Et pourtant, ce n'est pas une vie. Chose sans cesse à regarder, papillons ou vélos, comme une ombre de sagesse. Accroupi dans la quantité, flâneur ou brusque, l'Indien. Mais à quoi bon de tels jugements ? On passe à côté, puis un jour, où on ne le désire même pas, on est en plein dedans, puis on n'est nulle part. Le jugement, il faut le laisser. Et les ébauches d'analyse en passant, les impressions, ce carnet, dérivent. À travers Phèdre, comme à travers la fenêtre de marbre ajourée d'un palais moghol, j'ai vu l'Inde sans doute. Je l'ai aperçue. Elle est venue se déposer d'elle-même dans les recoins de ses pages, à qui le goût que j'ai des journaux de voyage procure une manière de sauf-conduit. Et vers toi, lecteur, comme on disait autrefois.
C'était « Phèdre en Inde » de et avec Jean-Christophe Bailly, avec des extraits du documentaire de Jean-Paul Sivérac, « Phèdre à Bhopal », une production de la Fémis. Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Éric Boisset, Benjamin Hu et François Christophe. « Phèdre en Inde » a été publié en 1990 aux éditions Plon dans la collection Carnet, dirigée par Alain Weinstein. Une seconde édition de ce journal apparut en 2002 chez André Dimanche éditeur.